Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, do anything else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec les voix de Julien Gill, Marc Pastor, Claude Maurice, Didier Mailleux, Karen Bruère et Charo Beltran. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc c'est la deuxième émission de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. C'est une phrase du poète Pierre Segers qui ajoutait « Je la tiens aussi essentielle à l'homme que les battements de son cœur ». Et ce soir, on continue à honorer le poète René Char, à qui on consacre nos deux premières émissions. Et ce soir, on a aussi le plaisir d'avoir, en plus de pas mal de camarades de la Brigade d'intervention poétique, deux poètes, même trois, je dirais, trois poètes de la région, qui sont Georges Drano, Nicole Drano-Stamberg, je ne ferai pas un scoop en disant que c'est sa femme, et Christian Malaplate, qui tous les trois ont rencontré René Char, l'ont fréquenté, ont correspondu avec lui pendant, je crois, les uns et les autres, une bonne dizaine d'années, aux alentours entre les années 60 et 80. Voilà, donc on leur posera des questions sur ce poète qu'ils ont connu de près. On va continuer à parler de sa vie. On en était resté la dernière fois à la résistance, puisque une des choses qui caractérise René Char, qui le singularise, je dirais, dans l'histoire de la poésie française et même universelle, c'est sa volonté farouche de ne rien publier sous l'occupation nazie pendant la guerre. Et c'est aussi le fait qu'il a été un grand chef de résistance, puisqu'il a dirigé le réseau d'approvisionnement en armes de toute la région Provence-Vaucluse, mais aussi Alpes de Haute-Provence, enfin, disons toute cette région qui avait entre le Luberon et la région de Fort-Calquier, Manosque, et ça allait, je crois, assez loin aussi au sud, jusqu'à Pertuis. Voilà. Donc, on avait évoqué quelques petites anecdotes sur ce personnage de grand résistant. Il faut savoir, enfin, on l'avait dit déjà la dernière fois, mais c'est bon de le rappeler, qu'il a été quand même à la tête d'un réseau très important qui rassemblait plus de 2000 résistants, qui était en plus une position stratégique, puisqu'il approvisionnait en armes. C'est eux qui faisaient l'accueil des parachutages d'armes et de munitions qui venaient d'Angleterre. Et puis, c'était aussi, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour un chef de résistance d'arriver à tenir sur toute la longueur. Il fait partie de ces quelques-uns qui ont traversé toute la guerre sans finir fusillé, ni emprisonné, ni déporté, bien qu'il en ait vu beaucoup autour de lui mourir et disparaître. Et cela, non pas parce qu'il était à l'arrière, mais il était bien toujours au premier rang. On lira quelques textes, mais vous savez, dans cette émission, on ne lit pas les textes forcément dans l'ordre chronologique, on ne se soucie pas trop du rapport mécanique du temps. Alors j'ai aussi à ma gauche Yves Flanck, qui devait être avec nous et qui a été retenu à la première émission. Bonjour Yves.
Bonjour Michel.
Voilà, qui va nous dire tout à l'heure un petit texte. Et pas que ça d'ailleurs, hein. J'espère qu'il va m'interrompre assez souvent, parce que là, il va falloir vous battre pour m'interrompre, on m'a dit.
Ouais.
Je voulais juste raconter une ou deux petites anecdotes sur Charles Résistant, c'est que on a parlé de son mélange de fauve un peu instinctif et de personne de grand esprit, de quelqu'un qui était très tourné vers la réflexion aussi. Et c'était quand même quelqu'un qui était capable de faire le coup de feu. Il l'a fait. D'ailleurs, il s'est parfois chargé de besognes qui n'étaient pas toujours agréables. Notamment, il a dû faire le coup de feu parfois pour descendre certains collaborateurs. Et il expliquait qu'il le faisait aussi parce qu'il ne voulait pas soumettre des plus jeunes que lui à cette, disons, à cette action particulièrement pénible et très désagréable. Et puis aussi, c'est cet homme qui est capable, à la dernière minute, quand un de ses hommes est embarqué par les miliciens et la Gestapo dans le village de Serrest, dont il avait fait son quartier général, et ben cet homme est capable, à la dernière minute, de rentrer dans le café où l'homme est arrêté. On ne le reconnaît pas, évidemment, puisqu'on n'a pas son signalement, de décider immédiatement de réunir 4 ou 5 de ses résistants, de dire, bon, notre ami, en l'occurrence, il s'appelait Vincent Réco, a été pris, considérons s'il reste dans les pattes de la milice qu'il est perdu, et tentons le tout pour le tout, prenons une voiture, prenons un raccourci, attendons-les à quelques kilomètres de là, et tirons dans la voiture. Et on verra bien ce qui se passe, s'il a de la chance, il s'en tire. C'est ce qu'il fait, il part, il fait ce jump au-dessus de, je ne sais pas quelle était la colline en question, il mitraille la voiture, Vincent Réco arrive à s'échapper, le chauffeur est blessé, les occupants de la voiture s'égayent dans la nature, et 3 jours après, on retrouve le Vincent Réco qui avait traversé toute la région. Voilà. Donc, c'est cet homme-là.
Est-ce que tu sais, Michel, pourquoi il avait le pseudonyme de Capitaine Alexandre ?
Non.
Moi, je ne le sais pas, hein. C'est une question.
Non, est-ce que vous le savez, Christian Malaplate qui est avec nous.
Non, a priori, Alexandre, ça a été un surnom qui lui a été attribué, parce que je pense que dans sa partie d'orphelinat, dans la généalogie de la famille, le mot Alexandre revenait souvent.
Voilà. D'accord.
Voilà une piste.
Voilà une piste, Georges. Georges Drano, non. Pas plus que...
Pas bon. Plus.
Alors, peut-être on va tout simplement lire... Un texte, Yves va nous lire un texte qui n'est pas spécialement un texte de résistance, mais qui a été écrit, je crois, pendant... Il fait partie de ce très beau recueil qui s'appelle « Les feuillets d'hypnose », qui est une sorte de carnet que Charles a tenu pendant toute la résistance, qu'il a publié à la Libération. Et ce texte s'adresse probablement à celle qui a été son agent de liaison pendant toute la guerre, Marcel Sidoine, voilà, et la présence des femmes et la présence de la nature du Luberon, cette nature qu'il a nourrie depuis son enfance, étaient, je pense, des ressources importantes contre la tyrannie.
Ma renarde, pose ta tête sur mes genoux. Je ne suis pas heureux, et pourtant tu suffis. Bougeoir ou météore, il n'est plus de cœur gros, ni d'avenir sur terre. Les marches du crépuscule révèlent ton murmure, gîte de menthe et de romarin, confidence échangée entre les rousseurs de l'automne et ta robe légère. Tu es l'âme de la montagne au flanc profond, aux roches tues derrière des lèvres d'argile. Que les ailes de ton nez frémissent, que ta main ferme le sentier et rapproche le rideau des arbres. Ma renarde, en présence des deux astres, le gel et le vent, je place en toi toutes les espérances éboulées pour un chardon victorieux de la rapace solitude.
Voilà, ce texte était de René Char, il est tiré des feuillets d'hypnose. Vous écoutez l'émission « Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose », l'émission de la Brigade d'intervention poétique. Et on continue à parler de la vie de René Char, qui est notre invité en esprit ce soir.
Et alors justement, Michel, Marcel, il la rencontre à Serrest.
Oui,
là où il a installé son QG de résistance, son
voilà.
Premier en tout cas.
Puisque la dernière fois, on a dit comment Char avait eu une sorte de prémonition du durcissement de la situation, bien avant la drôle de guerre, et qu'il avait fait tout un travail pour établir des réseaux d'amitié au départ, sans présumer que ça allait être aussi important sur un plan militaire, mais déjà pour se trouver avec, disons, des gens de confiance autour de lui. Et c'est effectivement à Serrest qu'il installe son quartier général, c'est-à-dire un peu beaucoup plus à l'est que l'île sur Sorgue, dans une partie montagneuse. Et là, il s'entoure déjà, il s'entoure déjà de gens qui sont à la fois des gens du milieu paysan, du milieu traditionnel, des viticulteurs, des paysans, et parmi lesquels d'ailleurs il suscite des vocations poétiques, notamment, je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois, les frères Roux, qu'il a encouragé beaucoup à écrire, et surtout Roger Bernard qui est un jeune poète qu'il va encourager à écrire et qui rentre dans son réseau de résistance et qui malheureusement se fait prendre à la suite d'une imprudence et qui est quasiment exécuté sous les yeux de René Char.
Horrible journée. J'ai assisté, distant de quelques cent mètres, à l'exécution de Roger Bernard. Je n'avais qu'à presser la détente et il aurait pu être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ses restes, des armes à faire craquer les buissons, et au moins égaux en nombre aux SS. Eux, ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé, comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux, et si léger, il m'a semblé qu'un souffle de vent eût pu le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village ? Un village pareil à un autre. Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant.
Voilà, nous écoutions Amisha, joué par Renaud Garcia-Fons et François Matinier, un duo, un excellent duo instrumental. Et auparavant, Julien Guil nous a lu un texte extrait des Feuillets d'hypnose de René Char, qui racontait la façon dont il a assisté lui-même à l'exécution d'un de ses hommes, mais comme il le dit, il n'intervient pas simplement pour protéger un village de la répression qui s'en suivra forcément. Donc on parlait de ce rôle de résistant de René Char. Il va tenir sa section d'approvisionnement, va devenir, comme il le dit lui-même, la bête noire des Allemands, et ils ne se feront jamais prendre, malgré des histoires absolument incroyables. Il y a par exemple un texte dans les feuillets d'hypnose. D'ailleurs, on devrait dire que ces feuillets d'hypnose, on peut les trouver facilement dans la collection Poésie Gallimard. C'est dans le petit recueil qui s'appelle Fureur et Mystère.
Fureur et Mystère, oui.
Voilà, dans lequel...
Ça a été publié en 1946, puisque René Char, donc tu l'as dit, s'est refusé à publier de 39 à 44. Et on ne sait pas, mais il écrivait pendant qu'il était dans le maquis.
Absolument, il écrivait, il avait caché ce petit carnet entre des pierres, enfin il ne le portait jamais avec lui, mais il le retrouvait régulièrement, il y ajoutait des petites notes.
Oui, si tant est qu'on peut considérer que ce sont des notes de résistants, notes
voilà.
De guerre.
Donc il y a, je crois, quelque chose comme 300 petits fragments qui font, les plus longs doivent faire une page, mais c'est vraiment les plus longs. Le reste, c'est souvent une pensée, un aphorisme, un petit fait relevé, son plaisir de voir la montagne, de regarder le peuple de l'herbe, comme il dit, de décrire les insectes, les oiseaux. D'autres fois, c'est un poème adressé à une femme, tout simplement. Et donc dans ces feuillets d'hypnose, on voit par exemple qu'au cours d'un atterrissage d'avion, une caisse explose, et elle fout le feu à toute la forêt alentour. Et voilà toute cette bande de résistants qui sont en train d'essayer de récupérer, de cacher les choses, parce qu'évidemment les Allemands ne sont pas très loin, donc, et ils passent leur nuit à se battre contre le feu qui prend à la forêt. Finalement, ils viennent à bout de ce feu sans que personne ne les ait vus. Et puis il y a cette anecdote, peut-être Julien, tu pourrais nous raconter cette anecdote qui concerne la noix. La noix, parce qu'on demande, donc Char cherche des terrains pour faire atterrir ces avions.
Un jour, on m'a demandé de trouver sur le plateau de Valensole un terrain nu où des avions alliés en difficulté pourraient se poser. Je trouve un grand champ convenable, mais un magnifique noyer vieux de 3 siècles s'élevait au milieu. Le propriétaire acceptait de louer le champ, mais refusait obstinément d'abattre le bel arbre. J'ai fini par lui expliquer pourquoi il nous fallait ce terrain. Il accepte. On commence à dégager la base de l'arbre. On suit la racine majeure, longue et épaisse, sur une dizaine de mètres. À l'extrémité de la racine, on trouve les ossements d'un guerrier enterré dans son armure. Cet homme devait être un guerrier du Moyen-Âge. Il avait une noix dans la poche lorsqu'il a été tué.
Alors, la noix avait poussé dans la poche.
Et comme l'extrémité de la racine majeure arrivait exactement à la hauteur de son fémur,
La noix avait poussé dans la poche et dans la tombe. Dans la tombe, si tant est que c'était une tombe. D'ailleurs, on retrouve une trace de cette noix dans un autre feuillet d'hypnose où il dit, après la guerre, on supposera que les morts inhumés ont des noix dans leur poche et que l'arbre fortuitement surgira. Voilà. Yves ?
Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va, dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Il était un homme, une fois, qui n'ayant plus faim, plus jamais faim, tant il avait dévoré d'héritage, englouti d'aliments, appauvri son prochain, trouva sa table vide, son lit désert, sa femme grosse et la terre mauvaise dans le champ de son cœur. N'ayant pas de tombeau et se voulant en vie, n'ayant rien à donner et moins à recevoir, les objets les fouillant, les bêtes lui montant, il vola la famine et s'en fit une assiette qui devint son miroir et sa propre déroute.
Vous écoutez Radio Clapas, vous écoutez aussi l'émission de la BIP « Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose » et notre invité en esprit est le poète René Char. La musique qu'on vient d'entendre, elle est tirée d'un album qui s'appelle « Suerte » de Abed Azrieh et j'ai un trou épouvantable, Abed Azrieh et Pedro Aledo, bien sûr. Auparavant, Yves Flanck nous a lu le poème « Allégeance ». Et nous parlions des Feuillets d'hypnose, ce recueil que Char a fait paraître à la Libération. Et comme nous le faisaient remarquer nos invités hors micro, ce poème a été publié par Albert Camus. Et ça a été le début, enfin c'est Georges Drano qui nous l'a dit, et ça a été le début d'une très longue amitié indéfectible entre les deux jusqu'à la mort de Camus. En plus, je crois qu'ils étaient voisins, puisque Camus habitait à Lourmarin et Char à Lille-sur-Sorgue, donc ils se voyaient très souvent. Ils ont énormément correspondu. Voilà, On donnera la parole d'ailleurs après, je le dis pour les gens qui prennent l'émission en cours de route, à Georges Drano et Christian Malaplate qui sont nos invités, qui ont connu René Char. Voilà, donc la libération arrive et Char, on peut dire qu'à ce moment-là, Christian nous disait qu'il avait un réseau extrêmement important de relations. À la fin, à la libération, donc auparavant, il est juste à la fin de la guerre, il est convoqué à Alger. Hein, il est convoqué à Alger, comme il le dit dans un texte, il se doute que ça va être le débarquement en zone sud. Et là, il va rencontrer De Gaulle. Il va rencontrer De Gaulle. Alors la rencontre vaut peut-être la peine d'être racontée, puisque il tombe devant un personnage, guindé dans son uniforme militaire. Lui, il est crasseux, il vient de se payer je ne sais pas combien d'heures de vol depuis le Luberon dans un petit coucou, un Lysander qui est un petit peu défaillant. Il arrive harassé dans un pays où il fait une chaleur absolument épouvantable, lui qui a plutôt habité au Mistral du Mont Ventoux, il n'y a pas un souffle d'air. Il arrive épuisé. Et De Gaulle lui dit « Alors, comment allons-nous ?» Et à ce moment-là, et devant cette espèce de majesté un petit peu aristocratique, Char lui dit « Eh bien, ma foi, l'art consiste parfois à savoir se faire petit. » Alors évidemment, lui, il pense tout simplement à la modestie de son voyage et au fait qu'il fallait se planquer pour traverser les lignes. Et évidemment, De Gaulle, dans sa paranoïa, enfin dans sa mégalomanie plutôt, prend très très mal la chose, quoi. Alors évidemment, ça, c'est une entrevue dans laquelle il s'échange à peine deux ou trois mots, quoi. Heureusement, il y a d'autres personnes qui sont là pour parler et ça s'arrête là. Voilà. Et en sortant, Char dit « Quel con !» Voilà. Donc à la libération, Char va être...
Ce qui est son aphorisme le plus définitif.
Le plus définitif, un des plus brefs aussi. Donc Char va être nommé, enfin je crois, il va être à Avignon à un poste très important de la mise en place du nouvel État français à peine naissant. Et il va jouer un rôle très très important de modérateur dans l'espèce de curé qui a lieu à la libération entre les résistants qui se découvrent résistants à la dernière heure et un certain nombre de règlements de compte qui se font avec les gens sous couvert de les accuser de collaboration. En tout cas, là, il joue un rôle, je crois, très très important. Il y a quelques beaux textes là-dessus, notamment le billet qu'il écrit à son... Enfin, la citation qu'il fait de son ami Francis Curel, qui est un de ses amis de très longue date, et dont il prend exemple, puisque Francis Curel, rentrant de déportation, comme il dit, préfère le jour de son retour marcher dans les prés de son pays avec son chien sur les talons, plutôt que de se rendre à la convocation du commissaire qui désire mettre sous ses yeux la fiente qu'il avait dénoncée. Et Char dit « Tu dis pour t'excuser ce mot étrange, puisque je ne suis pas mort, il n'existe pas ». Voilà, donc d'une certaine manière, être toujours en vie, c'était le pari aussi de gens comme Robert Antelme, comme il le raconte dans L'Espèce humaine, et Char est de ce côté-là. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à mon camarade Yves, à mon camarade Patrick Vendrin.
À flanc de coteaux du village, bivouac des champs fournis de mimosas. À l'époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on fasse la rencontre extrêmement odorante d'une fille dont les bras se sont occupés durant la journée aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant. Il serait sacrilège de lui adresser la parole. L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de la nuit.
Il ne faudrait pas aimer les hommes pour leur être d'un réel secours. Seulement désirer rendre meilleure telle expression de leur regard lorsqu'ils se posent sur plus appauvris qu'eux. Prolonger d'une seconde telle minute agréable de leur vie. À partir de cette démarche et chaque racine traitée, leur respiration se ferait plus sereine. Surtout, ne pas entièrement leur supprimer ces sentiers pénibles, à l'effort desquels succède l'évidence de la vérité à travers pleurs et fruits.
Thank you.
Vous êtes en compagnie de la BIP sur Radio Clapas et nous rendons hommage à René Char en compagnie de deux invités qui sont Georges Drano et Christian Malaplate. Je dirais même trois invités puisque Nicole Drano est avec nous aussi. Et voilà, et bien, tout simplement, je vais me tourner vers Christian et vous demander comment vous avez rencontré René Char.
Mais j'ai connu René Char au moment de la campagne de protestation organisée à la suite de l'implantation sur le plateau d'Albion, dans le Vaucluse, d'une base de lancement, justement, de fusées atomiques. Et à cette occasion, il était sorti d'une plaquette qui s'appelait la Provence point Oméga, et qui portait témoignage, justement, de cette campagne. Beaucoup d'écrivains et d'artistes participaient à cette campagne, et dont, justement, l'affiche était signée de Pablo Picasso, à l'époque. Puis nous sommes revus en 1981, grâce à l'amitié d'Alice Cluchier, qui était agent de liaison justement dans le groupe Réseau Action de René Char, et qui est une poétesse de talent et qui vivait à Montfavet. En décembre 1980, le journal Le Méridional avait publié un conte de Noël que je venais d'écrire, et suite à cette apparition justement, Alice Cluchier m'avait invité chez elle. Et tout naturellement, nous avons parlé de poésie, et surtout en particulier de René Char, qu'elle avait connu dans la Résistance et retrouvé aussi au moment de la naissance du Festival d'Avignon. Le fils d'Alice Cluchier...
Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est important de dire que René Char a été un des premiers à avoir l'idée de ce festival.
Oui, hein, défricheur avec Villard.
Voilà, avec Villard. Et même, je pense qu'il avait l'idée au départ de faire des expositions de peinture d'abord, oui, oui, avec le couple Zervos, je crois.
Oui, oui.
Et ensuite, il a dit, mais il y a un metteur en scène qui peut être formidable là-dedans, pensons à Jean Villard. Voilà. Je m'excuse de vous
avoir... Oui, dans la troupe du Théâtre National, justement, populaire, dirigé à l'époque par Jean Villard, c'est ça, là, c'est la naissance. Et c'est par l'intermédiaire d'Alice Cluchet, justement, que un jour de printemps 1981, j'ai été reçu par René Char dans sa maison des Busclaves, sur le coteau de l'île sur la Sorgue. J'ai été très intimidé d'abord parce que René Char est un homme bien taillé dans le rock.
Oui,
rugbyman. Il a joué deuxième ligne dans l'équipe de rugby de Sorgue. Donc c'était un personnage haut en couleur, puis solide à la parole assez droite. Nous avons surtout parlé la première fois de notre rencontre de ses promenades qu'il faisait dans le Mont Ventoux, les monts du Vaucluse, Saint-Rémy de Provence. Et il était en pleine lecture justement d'écrivains russes, en particulier Solzhenitsyn. Et il relisait pour la énième fois « Guerre et paix » de Léon Tolstoï. Il parlait beaucoup, surtout, des noces tragiques de l'homme et de la terre. Ça, c'était...
C'était en quelle année, ça vous l'avez
ça,
dit
Ça, c'est mais je, en je... 1981.
1981, d'accord.
Voilà. Il parlait beaucoup, justement, de ces noces tragiques et de l'homme et de la terre. Il m'a beaucoup guidé, surtout dans mes lectures, dans les grands poètes et espagnols, les grands écrivains russes, et Rabindranath Tagore, le poète du Bengale, justement, que j'ai découvert lui. Puis notre deuxième rencontre a été en pleine préparation de la sortie de La Planche de Vivre.
Qui était un petit recueil,
oui,
autour
en collaboration
de grands poètes.
De Dinage, là, c'est Gallimard. Et justement, il me faisait lire une série de traductions qui étaient justement sur Pétrarque, Shakespeare. Il y avait William Black, Emily Dickinson, c'était...
Alors, je vais me tourner vers Georges Drano pour lui poser la même question. Et Nicole, enfin, je pense que vous l'avez connu ensemble.
Oui.
Mais peut-être un peu plus tôt, je crois que Christian, c'était dans les années 60.
Enfin, moi, c'est par les lectures que j'ai connu Char, puisque... J'ai dû commencer à lire René Char dans les années 50, D'ailleurs, j'ai retrouvé dans notre bibliothèque les feuilles d'hypnose qui datent, que j'ai achetées en 1955 ou 56. Il y avait également Le Soleil des Eaux, Les Matinaux, enfin, etc. Oui. Donc j'ai commencé à lire ce poète qui m'a paru singulier par rapport aux autres poètes que j'avais lus avant, même par rapport aux surréalistes. Le surréaliste, c'est une poésie tout de même de l'image, de la ville. Char, c'est un homme de la terre. C'est tout ce qui m'a déjà accroché au départ. Les paysages, la terre, cette force tellurique qu'il y a en lui et qu'on reconnaît même dans son physique quand on le rencontre. Donc je lui avais écrit. À l'époque, j'étais instituteur dans un petit village de Bretagne que Michel a bien connu.
Puisqu'on s'est connu, là.
Complètement paumé dans les bords du Marais, là-bas. Et j'ai écrit à René Char, je ne me souviens plus exactement des termes que j'ai employés, mais pour lui dire comment je recevais sa poésie, l'admiration que j'avais pour lui et tout. Puis j'ai attendu, et c'est passé presque un an, j'ai reçu une lettre. Là, ça a été évidemment extraordinaire de recevoir une lettre de René Char, c'était contresigné. Et il me disait en substance, bon, mais écoutez, ça me fait très plaisir de vous avoir lu, etc. Et si vous passez un jour par l'île sur la Sorgue, venez me rendre visite. Donc l'été suivant, nous sommes allés. Enfin, il nous avait envoyé une lettre en plus pour nous décrire la route de Saumane par où il fallait accéder à sa propriété. Et donc, nous sommes allés, assez intimidés tout de même lorsqu'on a poussé le portail avec cette allée de gravier qui mène à la petite maison. Et quelqu'un prenait congé. Et il était en train de parler avec quelqu'un quand on s'approchait. Et j'ai su après que c'était Pierre-André Benoît, l'éditeur, qu'on a rencontré d'ailleurs par la suite. Et puis donc, Charles nous a fait rentrer dans cette pièce qui lui servait de bureau, très encombrée, et puis on a commencé à parler.
Le peuple des prés m'enchante.
Le peuple des prés m'enchante. Sa beauté frêle et dépourvue de venin, je ne me lasse pas de me la réciter. Le campagnol, la taupe, sombres enfants perdus dans la chimère de l'herbe, l'orvet, fils du ver, le grillon, moutonnier comme pas un, la sauterelle qui claque et compte son linge, le papillon qui simule l'ivresse et agace les fleurs de ses hoquets silencieux, les fourmis assagies par la grande étendue verte et immédiatement au-dessus les météores hirondelles. Prairie, vous êtes le boîtier du jour.
Voilà, c'était un autre extrait des feuillets d'hypnose de René Char. Bon, qui me semble particulièrement à propos de ce que disait Georges, de l'attachement de René Char à la nature qui l'entoure, qui est une nourriture vitale. Hein. Christian aussi peut en témoigner. Alors, il faut peut-être rappeler aussi, vous avez cité les auteurs qui étaient chers à Char, notamment cette planche de vivre dans laquelle il a réuni des grands poètes. C'est quelqu'un qui vous a incité à écrire aussi, qui vous a encouragé.
Enfin, moi, Georges. J'écrivais déjà avant, bien sûr, mais c'est sûr que pour moi, ça a été une référence. Plus qu'une influence, je pense que ça a été une référence dans la manière dont il écrivait, bien sûr, et surtout dans la manière où il vivait son statut, entre guillemets, de poète. C'est-à-dire n'acceptant aucune compromission, même pas les honneurs, puisque à plusieurs reprises, il a été sollicité pour devenir, entre guillemets, un peu le poète national, le poète officiel.
Et même le prix Nobel de littérature, voilà, qu'il a refusé.
Voilà, exactement.
Il faut savoir.
Il avait donc cette position de retrait par rapport à la vie publique, par rapport aux médias aussi. Il était très méfiant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une année où Jérôme Garcin avait tenté de faire une émission de télévision sur René Char. On a même vu quelques images à la télévision où on voyait les caméras qui s'approchaient, Char qui disait « Non, pas d'image, pas d'image ». Et l'été suivant, je me souviens lui en avoir parlé, et je lui avais dit avec beaucoup de précaution, évidemment, c'est dommage que vous ne laissiez pas derrière vous le témoignage de votre présence, de ce que vous pensez de la poésie, des images. Vous voyez Picasso avec le film de Clouzot, maintenant on a ce témoignage vivant d'un peintre en train d'agir. Oui, peut-être, mais enfin, ça ne l'amusait pas du tout. Il n'avait pas envie de faire comme il disait. Quelquefois, je n'ai pas envie de faire le guignol.
Christian Malaplate, vous pouvez peut-être ajouter de l'eau au moulin de
Georges. Moi, c'est surtout la façon dont il écrivait qui faisait ressortir justement le tragique de l'homme et de la terre. C'est ça, sa force à lui. Et c'était un personnage, grâce à lui, qui m'a aidé à écrire. Parce que bon, disons, quand on est en présence d'un tel personnage, quelques références déjà littéraires, ça nous conduit. Et en 1983, quand je l'ai rencontré à nouveau, nous nous sommes retrouvés au moment où toute son œuvre était publiée à la bibliothèque La Pléiade. Là. C'était en 1983.
Et tout naturellement, il a commencé à parler d'Albert Camus, l'homme révolté. Pour lui, c'était un personnage important. Albert Camus était ami avec Gallimard à l'époque. Tous les deux sont décédés suite à un accident d'automobile. Et Albert Camus était un peu à l'origine aussi du Festival d'Avignon, puisque avec Jean Vidiard, ils ont commencé à monter des pièces très populaires au Palais de Chaillot. Et en 1985, je lui ai rendu visite après la publication de son livre qui est magnifique, qui s'appelle « Les voisinages de Van Gogh ». Et c'est un livre qui traite surtout la peinture de Van Gogh, et dans l'ensemble, il avait une façon de parler de la peinture extraordinaire. Je ne sais pas, Georges, si vous aviez eu l'occasion de parler de peinture avec lui.
Il avait effectivement un rapport à la peinture très important, mais il fréquentait aussi beaucoup les philosophes, hein, oui, Camus, oui. Les autres.
Et alors, Martin et Heidegger.
Voilà, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est sa rencontre avec Heidegger.
Oui.
Parce que, bon, pour un combattant, en tout cas comme oui. lui, comme René Char, qui s'était très engagé dans la résistance, de fréquenter intellectuellement quelqu'un qui avait adhéré au parti nazi oui. très tôt, oui. ça m'a beaucoup étonné. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Ben c'est surtout là une rencontre un peu particulière, parce que je crois qu'il était venu parce qu'il y avait un colloque dans la région, je crois, à l'époque. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et puis c'est quelqu'un qui n'avait pas une rancune particulière à la fin de la guerre. Donc c'était un fait de guerre, c'était un combattant, la guerre était finie, on tâchait de reconstruire, de voir un peu plus loin, quoi. Il était plus dans le présent, si on veut. Donc ce qui l'a aidé plus ou moins à effacer ou mettre un petit peu entre parenthèses son passé de résistant, quoi.
Merci. Nicole Drano, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez nous dire votre point de vue de femme poétesse devant ce joueur de rugby qui était René Char?
Eh bien moi, ce que j'ai retenu, ce sont des gestes très simples qu'il avait. Il nous invitait dans sa cuisine à boire du muscat. Je ne me souviens plus du nom de ce
muscat. Du baume de Venise, sûrement.
Voilà, bah du oui, baume de Venise.
Évidemment. Oui, oui.
Et puis, chaque fois qu'on partait, donc il nous accompagnait jusqu'à la voiture et il me cueillait tantôt un bouquet de sauge, tantôt un bouquet de lavande. Et puis, il m'indiquait les vertus de ces sauges qu'on pouvait consommer sur de la viande grillée ou les lavandes qu'il aimait beaucoup et qu'il ne saurait se séparer. Voilà, ce sont des choses comme ça, des gestes très simples. Un jour, nous y sommes allés et il avait préparé un magnifique livre que Georges a apporté, là, qui est là, et qui était donc, il avait écrit les poèmes à la main. Et il était accompagné par le peintre Galparine. Et donc nous l'avons feuilleté ensemble. Il nous avait fait d'ailleurs une très très belle dédicace. Et il s'est arrêté sur le poème de la Bergeronnette. Et il nous l'a expliqué. Il nous a dit un jour, nous étions en voiture. Et il y avait un rond-point avec une mare. Et il y avait énormément de voitures. Et j'ai été, c'est René Char qui parle, j'ai été émerveillée par cette bergeronnette qui n'était préoccupée que de boire et de se regarder dans l'eau. Et ce sont ces choses-là qui m'ont beaucoup intéressée.
Oui, Georges, je vois Georges qui veut ajouter oui. quelque chose à cette bergeronnette devant sa flaque.
Non, je voulais dire simplement que très rarement je lui ai apporté des poèmes. Je sais que beaucoup de gens venaient avec des manuscrits. Pour ses 80 ans, c'était la dernière fois, je pense, qu'on l'a vu, j'avais apporté du sel de Guérande et du vin de Montpérou.
Voilà une bonne idée. Parce
qu'il a été très surpris d'ailleurs de ce cadeau. Je lui avais demandé au téléphone.
Il n'y a rien de pire pour un poète que de recevoir un poème d'un autre, voilà. Parce qu'il va être obligé de lui dire ce qu'il en pense.
Alors donc, il nous avait donné quelques années avant son numéro de téléphone, donc on l'appelait pour pouvoir se rencontrer. Et je lui avais demandé, est-ce que vous aimez le vin? Il dit, bien sûr. Bon. Alors, bon, on lui a apporté ça dans son petit bureau, là, tout encombré. Et puis à un moment, il s'est absenté, il est allé dans une autre pièce. Il dit, moi aussi, j'ai un petit cadeau à vous faire, c'est un... c'est un cadeau d'amitié, tout ça. Et donc, c'est ce livre-là qu'il nous a offert en marquant la dédicace et tout.
Bon, alors, il n'y a pas encore de webcam à Radio Clapas, c'est dommage, parce qu'on pourrait montrer les images de ce livre qui, avec des je pense que c'est des eaux-fortes, enfin, c'est
ce qu'ils appellent des enluminures.
Des enluminures de couleurs magnifiques et des choses écrites, manuscrites par René Char.
Non, il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a quelques-uns.
D'accord, alors vous disiez, Nicole disait tout à l'heure voilà, qu'il vous a parlé de la jeunesse de ce poème, mais c'est tout un débat. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment les choses sont arrivées?
On n'a pas besoin de savoir, mais moi, la première fois que j'ai lu des poèmes de René Char, on s'y retrouvait après chez Pierre-André Benoît, justement, qui était un éditeur très rare et très précieux. Et on a parlé assez longuement. Et là, je me suis rendu compte que la plupart des poèmes de René Char avaient une origine très banale, très simple, très quotidienne, de vécu. Ce qui ne paraît pas forcément évident quand on lit pour la première fois la poésie de Char, qui nous paraît difficile, quelquefois hautaine, d'ailleurs ça lui a été reproché, lointaine même de nos préoccupations, alors qu'au contraire, c'est une poésie qui part du quotidien, qui part du vécu.
Bon, c'est sentiment.
Moi, je l'ai beaucoup noté sur un carnet. Toutes les impressions qu'on avait en promenade, y notait. Donc, c'était un oiseau, enfin, une situation présente qu'il avait justement observée, y notait. Et à partir de ces carnets-là, après, il composait le poème. Mais moi, à aucun moment, j'ai apporté mes poèmes parce que, bon, j'étais pas pour ça. C'était la rencontre d'un homme qui m'intéressait beaucoup plus.
Merci. On va écouter un peu de musique. Un autre poète. Leonard Cohen, chanté par un de nos grands chanteurs.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin, et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, et une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un an, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame. Pleure. Elle te montre où chercher parmi les déchets, les fleurs. Dans les algues, il y a les rêves des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours, et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.
Tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie inexprimable, la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir. Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci, de là quelques fragments décharnés, au bout de combats sans merci. Hors d'elle, tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride, en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi, disparais sans regret, au gré de la rigueur suave. Quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit, sans interruption, sans égarement. Et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union.
Comme une présence, c'était un poème de René Char, qui donne d'ailleurs son titre à un recueil. Merci Patrick de nous avoir dit ce texte. Nul ne décèlera votre union, et sème la poussière, nul ne décèlera votre union. Il l'écrit, ne décèlera au sens de déceler, hein, de trouver, de découvrir, quoi. Alors il y a quelque chose comme ça, certainement de secret dans René Char, hein, de gratuit, hein, la vie va comme elle va, et dans ce grand mouvement, ils se font et se défont des amitiés. Vous avez parlé, Georges, de l'amitié des peintres, hein, de Galperine. Christian aussi voulait nous dire deux mots sur
J'ai parlé tout à l'heure les voisinages de Char au peintre, de Van Gogh, et René Char dans son livre justement à propos de Van Gogh écrivait: ce pays au ventre de cigale nous était pleinement communiqué par une main et un poignet. De quelle fournaise et de quel paradis Vincent Van Gogh surgissait-il? Et de quelle souffrance maîtresse tenait-il ses cailloux, ses iris et ses marais, ses étroits chemins, ses mâts, ses blés, ses vignes et ce fleuve? Sublime dessein.
Voilà, donc on parle là, il donne la parole à Van Gogh, mais on sait qu'il a été aussi l'ami de Nicolas de Staël,
de Georges Braque
également, de Matisse. On avait raconté dans la première mission, on avait dit comment aussi au début, très tôt, Éluard lui avait dit: si tu veux tenir le coup en publiant tes poèmes, débrouille-toi pour avoir quand même quelques frontispices de types qui peut-être vont devenir très célèbres, on ne sait jamais, hein. Et quand même, alors là je voudrais vous poser la question, c'est quand même étonnant cet homme qui n'a jamais vécu que de sa plume, en ayant décidé que ça serait comme ça. Hein, et pourtant, les plâtrières de la famille n'ont pas très très bien marché. Je sais qu'il a tenté toutes sortes de choses, du prêt-à-porter, mais c'était pas du tout fait pour lui. Enfin, il a tenté toutes sortes de choses et il a continué malgré ça, hein, à tenir. Je me tourne vers vous qui êtes poète, hein, vers vous trois, et là ça pose une question qui est terrible. Comment font les poètes pour survivre?
Là, bon, d'une part, il avait quand même des aides du Centre national des lettres assez régulières. Et moi, je me souviens avoir rendu visite à Guy Lévis-Manot en 1966. Je me souviens exactement de la date.
Alors, excuse-moi, je dis pour nos auditeurs, Guy Lévis-Manot était un poète imprimeur.
Voilà, imprimeur-éditeur qui faisait des livres. Voilà.
Les éditions GLM.
Oui, GLM, très grande qualité. Donc, en 1966, parce que c'est l'année où René Char a publié « Retour à Mont », illustré par Giacometti. D'ailleurs, Giacometti n'a pas pu signer les exemplaires parce qu'il est mort avant le tirage. Et j'avais demandé naïvement, disons, à Guy Lévis-Manot, mais vous en tirez combien d'exemplaires ? 700 exemplaires. Et vous allez les vendre, mais ils sont tous vendus. Et j'avais fait un calcul à l'époque, ça rapportait quand même des sommes assez importantes.
Bien sûr.
Donc tous ces tirages de tête, et je me souviens qu'en 1966 ou 67, René Char avait prêté toutes ses collections à la mairie de Carpentras. Car le maire de Carpentras...
Et le responsable de Carpentras, c'était Georges Bataille.
C'est possible. Ouais. Donc, il avait prêté donc ses collections de livres, alors illustrés par De Staël, Vieira da Silva, Pacesnes, enfin, etc. Mais c'était considérable, considérable le nombre de peintres avec qui il a travaillé, qui ont été ses compagnons.
Dali, Kandinsky, Miro, Matisse, Picasso, Giacometti, Nicolas De Staël, Braque. Enfin,
oui, que des grands noms. Mais ça, c'était vers la fin de sa vie, parce que quand même, il y a une époque où ces gens-là étaient.
C'est les années 60 quand même.
Oui, oui, il y a quand même.
Il ne faut pas oublier qu'il avait une solde aussi de militaire.
Oui, puisqu'il avait été résistant.
Il a été résistant. D'accord, il était maréchal des logis, capitaine. Enfin.
Pierre Boulez a composé des musiques sur 3 cantates.
Oui. Et notamment le marteau sans maître, voilà. Qu'on n'a pas réussi à vous infliger.
Le marteau sans maître, j'ai eu l'occasion avec Bernard Glantier, qui était le chorégraphe ici à Montpellier, qui est décédé depuis, de monter justement à partir des textes de René Char et de la musique de Boulez, justement une chorégraphie à Villeneuve-les-Maguelon, justement autour de son œuvre.
Alors, les poètes vivent un peu comme ça, mais je sais aussi que Char, pour dépanner ses amis, n'hésitait pas à vendre les œuvres de ses amis artistes.
Absolument. Non seulement il vendait, mais même par rapport à l'aide dont parlait Georges, cette aide du CNL, je crois qu'à une époque, il a fini par la refuser en disant « je n'en ai pas besoin, qu'elle serve à d'autres ». Donc, c'est pas du tout une question méchante. C'est une vraie question, c'est-à-dire comment se constitue petit à petit la possibilité pour un poète de vivre de sa plume, ce qui est un parcours très long, parce que quand même, Char...
il avait un certain capital quand même financier, malgré tout, avec les choses... Plâtrière, il y avait quand même une somme assez...
Les plâtrières, je sais que les plâtrières, justement, elles ont battu de l'aile gravement.
Oui, je pense que c'était pas un homme d'affaires.
C'était pas du tout un homme d'affaires. Et d'ailleurs, il a essayé de s'en débarrasser à une époque. Oui, ça sera une fois, on fera une émission spéciale sur l'argent des poètes.
Voilà.
Hein, je vous propose, je pense que c'est un sujet passionnant, en fait.
Oui. Et les femmes. Et les femmes.
Et après, on fera les femmes de poètes. Mais alors là, si on aborde la question des femmes de René Char, je pense qu'il nous faut 3 autres émissions pour arriver à boucler la chose.
Les dépenses.
Et malheureusement, on leur tourne. On aurait dû prévoir beaucoup plus d'émissions. Alors, je voudrais vous remercier d'abord, Christian Malaplate, Georges Drano, Nicole Drano-Stamberg qui était avec nous, Claude Frigara qui était avec nous aussi pour nous aider à démarrer cette émission. Et puis, mes amis de la BIP, Yves Flanck, Patrick Vendrin, Julien Gill, Charo Beltran qu'on a pu entendre dans ce beau texte qui s'appelle Le Masque Funèbre, et également je voulais, parce que je ne l'ai pas cité la dernière fois, rappeler que Claude Maurice disait un très beau texte qui s'appelle Jacquemart et Julia dans notre dernière émission. Personne ne s'en rappelle évidemment, mais je tiens à la remercier quand même, et on retrouvera ce texte plus tard. J'ai quelques informations encore à vous donner, importantes. Nous avons monté un spectacle avec un petit fragment, une alvéole de la BIP, de la Brigade d'Intervention Poétique, c'est-à-dire Julien Gill et moi-même, en compagnie d'Olivier Roman Garcia, qui est un guitariste extraordinaire, que vous connaissez peut-être à Montpellier. Ce spectacle s'appelle Char Résistance, et on le jouera 2 journées de suite, au théâtre Pierre Tabar les 3 et 4 décembre. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas un moment éclairant et nourrissant en compagnie de René Char. Et on vous donne rendez-vous, si je n'ai rien oublié.
Cette émission est rediffusée dimanche à 14h sur Radio Clapas 93.5 et sur Internet.
Merci. Alors sur Internet, on va bientôt pouvoir la trouver aussi en permanence sur notre site michelarbatz.com. Et j'avais encore une autre chose à vous dire. Oui, la prochaine fois, ça sera le 11 décembre. Et l'invité à l'honneur, enfin l'invité dans notre esprit toujours, ça sera le grand poète René Guy Cadou, poète des terres de l'Ouest. Merci à tous, à la prochaine.